On est de retour pour une étude dans le livre de Juges. Et vite, vite, on va passer. C'est un rappel. On sait comment ça fonctionne le cycle. On l'a vu dans les derniers chapitres. Là. C'est déjà, premièrement, les Israélites abandonnent l'Éternel. Ils s'en vont vers les idoles. L'oppression tombe. Après cela, ils crient vers l'Éternel. Après, Dieu suscite quelqu'un. Après, il y a une période de paix. Et puis, ça recommence. C'est ça le cycle dans le livre de Juges. Alors, mon frère, excuse-moi, peux-tu nous rappeler ton nom, s'il te plaît? Moi, c'est Isaac.
Moi, c'est Arnaud.
Arnaud?
Oui, Arnaud.
Merci de nous visiter ce matin.
Merci.
Nous sommes en train d'étudier le livre de Juges. On est arrivé au chapitre 8 ce matin. Et on fait une petite récapitulation de ce qu'on avait vu à date. Okay? Alors, dans les derniers dimanches, les sessions qu'on a eues, on a vu tous ces juges-là. Et Gédéon, ça fait quelques semaines qu'on est dans Gédéon, là. On a commencé dans le chapitre 6 et on est rendu dans le chapitre 8. C'est le dernier chapitre qu'on va voir sur Gédéon. Mais il a occupé pas mal longtemps notre temps et c'était une joie, une bénédiction aussi d'étudier la vie de Gédéon qu'on va terminer aujourd'hui. Récapitulation vivante dans le chapitre 7. Nous avons appris quelque chose sur Dieu, entre autres. Comment Dieu connaît les émotions humaines. Vous vous rappelez? La faiblesse, la peur de Gédéon, qui voulait pas. Oh non, il avait craint, il avait la crainte de Madianite. Et notre Seigneur, il comprend sa faiblesse. Il lui dit, vas-y avec la force que tu as. Tu vas délivrer Israël. Il ne le condamne pas. Même après le test qu'il a fait passer au Seigneur, là. Vous vous rappelez les tisons, hein? Les toisons, les toisons. Mon ami. Ben. Alors, ça était supposé d'après nous, là, de faire monter sa foi, sa confiance en Dieu. Je pense que oui, ça a fonctionné, mais pour un moment, et il est tombé dans la peur. Il a peur, comme nous autres. Hein? Il a eu peur, et notre Dieu ne lui condamne pas. Il ne lui reproche pas sa peur. Il lui donne un aide. Il lui dit, vas-y avec Pura, ton serviteur. Vas-y, affronte-les. Et ça nous fait penser vraiment à la miséricorde de notre Seigneur. Il voit notre situation, il comprend, il nous fait grâce, il nous fait grâce. C'est ce Dieu-là que nous adorons et que nous apprenons à connaître à travers la Bible et à travers nos expériences personnelles aussi. L'Éternel a fortifié progressivement son serviteur. On l'a vu, tranquillement, il fait des pas de foi jusqu'à arriver à être prêt pour affronter les Madianites. Dieu s'est servi de Gédéon et de combien d'hommes? 300 hommes seulement pour combattre la grande armée. Alors qu'ils ont tout réuni, quoi, 32 000 choses, 132 000. On a fait comme ça, c'est un gros nombre qui se sont portés volontaires pour aller combattre les Madianites parce que c'est une armée puissante. Mais Dieu a dit, ben, on va faire le tri, là. Et puis vous vous rappelez le tri qu'il a fait, ceux-là qui vont laper l'eau avec la main, ils vont dire, ben, ceux-là vont venir avec nous, etc. Pour en choisir seulement 300. 300 hommes qui vont se battre contre une armée. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu exige l'obéissance de ses serviteurs, de ses hommes. Et il va soutenir notre foi défaillante. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance, malgré les défis qu'on peut vivre personnellement et en assemblée, collectivement. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Finalement, Dieu a accordé la victoire, on avait vu, avec les chefs dans la fin du chapitre 7, là, on a vu les chefs de Madianite qui ont été tués. C'était une partie de la victoire. La victoire, c'est une victoire partielle, mais on va voir le reste de la victoire ce matin dans le chapitre 8. OK, c'est bon? Alors, on va voir le chapitre 8 qui contient 35 versets. En grosso modo, on va voir la victoire finale sur les Madianites. Ils vont être rasés. Il va y avoir une punition des villes. Il y avait des villes qui ont été sollicitées pour aider Gédéon. Ces villes-là ont refusé de même nourrir ces troupes, ces 300 hommes. Ils disent non, pas question, on ne va pas te nourrir. Nous allons le voir dans le texte, il va y avoir une punition de la part de Gédéon pour ses compatriotes, supposément compatriotes. Alors en fait, ils sont des compatriotes, mais qui ne les ont pas aidés. On va voir qu'il y avait une proposition de Gédéon de devenir le roi d'Israël. Le peuple voulait, mais Gédéon n'a pas voulu. Et plus tard, on va voir une période de paix en Israël, parce que Gédéon est encore en vie. Mais sitôt qu'il va être mort, la balade commence. La balade commence. Le retour à l'idolâtrie. Et c'est ça. Nous allons lire en trois parties pour pouvoir les commenter.
Il n'y a point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël.
Voilà. Toute une histoire. Hein? Toute une histoire. Voilà. On commence avec une question. Le premier verset nous parle de les hommes d'Éphraïm. C'est qui ces hommes-là d'Éphraïm, d'après vous? Ok. Vous êtes tous d'accord? Ce sont les guerriers de la tribu d'Israël, d'Éphraïm. Vous êtes d'accord? On est d'accord là-dessus. Une autre question. C'est qui Éphraïm? C'est pas des questions pièges, là. C'est un homme, ça c'est sûr. C'est l'un des fils de Joseph. C'est l'un des fils de Joseph. Et aussi, il est frère de Manassé. Okay. Et Gédéon, c'est de cette tribu-là, Manassé. Okay. C'est de partir pour aller la guerre. Okay. Là, on comprend le premier texte, le premier verset. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, qu'est-ce qu'ils font à Joseph là? Qu'est-ce qu'ils font à Gédéon? Ils se sont querellés, ils voulaient se quereller avec Gédéon. Et pourquoi, d'après le texte?
Parce qu'il les a pas pris pour aller combattre.
Est-ce une bonne raison? Est-ce une bonne raison de quereller un gars, un juge? C'est de l'orgueil, c'est la gloire, c'est la gloire, c'est la gloire, c'est exactement ça. C'est la... Oui.
C'est pas se rappeler que Éphraïm et Manassé étaient les deux tribus. C'est la tribu de Joseph. Mm-hmm. C'est la même tribu qui est arrivée de
l'Orgueil. Ouais.
On a mis la même tribu.
Ouais. Un problème de cœur, ça aussi. C'est un problème de cœur. C'est l'humain qui est comme ça. Okay? Les liens familiaux, ça n'empêche pas les querelles. Là, là. Non. C'est bon. C'est bon. Okay? Les chrétiens sont obligés de travailler là-dessus pour avoir la victoire, mais on est exposé à ça. C'est bon. On vous disait qu'ils voulaient partager la gloire de la victoire, n'est-ce pas? Hey, on était dedans. Là. Wow, c'est cool. Hein? OK, on va avancer. Est-ce qu'ils ont été vraiment complètement ignorés? Ils n'ont pas été ignorés. Hein? Ils n'ont pas été ignorés. On a vu dans les derniers versets, là, qu'est-ce qu'ils ont été? Ils ont été appelés pour faire quoi? Pour travailler sur les barrages, pour empêcher, etc., dans les eaux. Là. Fait que, en plus, c'est eux qui ont finalement tué les deux chefs. C'est eux. Mais pourquoi se plaindre? Imaginez ça. Ils vont trouver une raison de quereller le juge pour rien. Là. Mais quand on regarde, là, vite, vite, dans les textes, c'est comme s'ils ont cette faiblesse-là. Ils aiment chercher la guerre, la tribu d'Éphraïm. On va le voir plus tard. On va jeter un petit coup d'œil là-dessus, vite, vite, plus tard. Ils n'ont pas été ignorés. Hein? Dans Juges 24 et 25, on voit tout ce qu'ils ont fait, chapitre 7, verset 24 et 25. Ils ont été impliqués. Ils ont été impliqués. Et comme je dis, le texte le dit, ils ont été, c'est eux qui ont, se sont débarrassés des deux chefs, Zeb, comment ils s'appellent ça? Oreb et Zeb, Zeb, ok? Ok, c'est eux qui ont fait la job finale. Voilà. Est-ce qu'ils ont raison d'être mécontents contre Gédéon? Moi, je dirais non. C'est gratuit, ça. C'est gratuit, vraiment. Ils n'ont pas raison. OK? Maintenant, la question ils ont été impliqués pour dans les cours d'eau, pour bloquer les cours d'eau, etc. Et finalement, ils ont tué les chefs des Madians. Mais pourquoi pensez-vous que Gédéon ne les a pas invités au combat? Ils n'étaient pas au combat.
C'est eux qui ont eu la tâche
d'éliminer.
Ouais,
les chefs.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut, est-ce qu'elle peut finir? Après, on va donner la parole, Joël. T'avais fini ta pensée?
Ok. Mm-hmm. Okay. C'était une stratégie militaire aussi. Okay. Parce qu'ils avaient réduit le camp de Madian, mais.
Mais moi, je parle, la question, c'est pour au combat. Ils n'ont pas été invités au combat.
Tu as choisi 300
personnes. Ah, ça s'en vient. Joël, maintenant.
Moi, ce que je crois, c'est que Dieu connaît le cœur de l'homme.
Ok.
Il connaît les Éphraïm et les Santos.
Ok.
Qui auraient pu tirer une loi.
Ok.
Avant okay. Le combat qu'ils auraient mené mm-hmm. et gardé.
Alors, tu penses que c'est Dieu qui a, c'est la sagesse de Dieu qui fait que.
Dès le début, Gédéon. Quand l'armée était trop importante,
oui.
Quand Dieu a parlé oui. à Gédéon, ton armée est trop importante, mm-hmm. ils vont se donner la gloire.
Si oui, oui, gens, oui.
Mm-hmm. Je pense qu'en les
dans cette même. Ok. Donc, élément de réponse? Oui, ma soeur?
Je crois que c'est lui qui menait toutes choses, les stratégies, c'est lui qui donnait.
Oui.
C'est lui qui donnait les instructions, même comment.
C'est Néon. Mm-hmm. Mm-hmm. Pas d'autre réponse, élément de réponse? Parce qu'on dit la même chose, oui. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est peut-être ça. C'était le combat de Dieu. Voilà. il avait compris ça. Dieu a fait le tri. Dieu lui a dit, mon ami, tu vas combattre avec ta force, etc. Dieu l'a reconforté. Là, il a 300 hommes, il a vu les victoires. Les gars n'ont pas eu à tuer quiconque. Hein? Ils se sont tués eux-mêmes. Là. Gédéon a vu ça. Gédéon a compris. Non, ça, c'est le combat de Dieu. On n'a pas besoin de, comme vous dites, là, ces gars-là, d'Éphraïm, comme. Peut-être que. Et Gédéon était conscient de leur faiblesse. Parce qu'on le voit, on va le voir plus tard, là. Ils sont bons à chercher la querelle, la tribu d'Éphraïm. Voilà, ok, on va continuer. On comprend que Gédéon voit, mais ça, c'est le combat de Dieu. Tu n'as pas d'affaire là-dedans. Il y a même. Il y a dans Néhémie, dans Esdras, deux trucs comme ça. Les peuples, les Samaritains qui voulaient venir aider avec la construction de la muraille. Et la. Non. On ne veut pas de votre aide, là. Néhémie, Esdras dit non. Ça, c'est. Vous n'avez pas part dans ces travaux-là. C'est le peuple de Dieu, c'est les fidèles, c'est nous. C'est notre job à nous. On n'a pas besoin. Comprends-tu, là? Fait que, je pense que c'est dans cette même idée-là qu'on a dit, j'ai déjà compris ça. Non? Bon, Dieu est avec nous, là. On n'a pas besoin de ça. En plus, que Dieu les a dit, s'ils vont venir, ils vont essayer de prendre la gloire. N'est-ce pas? Là, on va poser une autre question. Que reflète la réponse de Gédéon aux hommes d'Éphraïm? Peut-être on devrait lire la réponse de Gédéon. Prie. Qu'est-ce que
je fais maintenant en comparaison de vous? Mm-hmm. Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange de Gisèle?
Mm-hmm.
C'est dans vos mains que Dieu a livré les chefs de la vie. Qu'ai-je pu faire en comparaison de vous?
Qu'est-ce que vous pensez maintenant de cette réponse-là?
C'est une très sage réponse. C'est pas moi qui.
Il accepte de donner la gloire aux autres. Vraiment, il reconnaît qu'il y a rien fait. Donc, dans le sens que le combat était entre eux autres.
Dieu qui est en contrôle de tout. Moi, j'ai rien à faire avec cette situation. C'est Dieu qui est en contrôle.
Puis la façon qu'il a répondu, c'est comme regarde la gloire après vous autres, arrêtez de chialer. C'est quasiment ça qu'il.
D'autant plus, on sait qu'il cherche querelle. Vraiment, là, il cherche querelle. Un homme de paix. Quelqu'un a dit de sagesse. Oui, vas-y mon frère.
Joël, je pense que chapitre 6, 34, on voit que Gédéon envoie des messagers à Zabulon et Nathalie.
Mm-hmm.
Chapitre 7, 24, 25, on voit que Nathalie, Azer et Manassé poursuivent Madian. Et il y a Gédéon qui envoie Éphraïm. Azer n'était pas là, tout le monde Azer est là.
Nazaire est là.
Oui, maintenant, mais ils n'avaient pas appelé Nazaire. Nathalie, il ne demande pas victoire, il ne demande pas la gloire. Mais Rim cherche la gloire. Ouais. Tu vois que le comportement qui s'est révélé. Et je dirais, il dit, hé, hey, moi, j'ai rien. J'ai juste vendé, vous avez le crapillard. C'est bien plus, là.
On va voir, je vois aussi un tact là-dedans aussi, en tant que juge, là, en tant que homme de guerre, là, comprends-tu? C'est ce que je vois. Je vois aussi l'humilité. Je vois quelqu'un a dit sagesse, je vois une sagesse aussi, là. Une sagesse, une humilité dans cette réponse-là. Parce que, qu'est-ce qui va arriver avant d'aller là? Est-ce qu'on peut qualifier la réponse de flatterie?
Non.
Ok. Des frères, les chefs, ok.
Mm-hmm.
Ok. Mm-hmm. Mais la chef, comparativement à toute l'armée qu'on a combattue,
120 000.
Et en même temps, si lui a répondu aussi pour éteindre le feu de Paris.
Ah ah! Apaisant, je pense que le texte nous dit ça a apaisé, là. Je crois que ça dit beaucoup, là. Pour apaiser. Il apaisa. C'est, pour moi, là, c'est une technique, un tact par rapport à ces gars, parce qu'il il a l'air de connaître ces gars-là. OK?
Et en même temps aussi, c'est que Gédéon a dit, c'est Dieu qui me dit, c'est Dieu qui m'a dit ça, mais...
Il ne l'a pas dit à ces gars-là.
C'est ça.
Il ne l'a pas dit à ces gars-là. En tout cas, je pense que toutes les... On discute pour discuter, là. Je ne pense pas qu'il y a une réponse absolue, là. C'est pour ça. On essaie de comprendre, et puis ça nous...
C'est honnête comme réponse. C'est pas une tactique, c'est honnête.
Ouais. Ok.
Je pense qu'il voulait pas prendre la gloire.
Mm-hmm.
C'est ça.
Mm-hmm. Okay.
Le mot humilité, moi je suis complètement d'accord. Il est humble.
C'est ça.
Il n'a pas voulu prendre la gloire.
On apprend à connaître Gédéon. On apprend à connaître. On le voit, son humilité, là, il est partout dans tous les récits. Là. On le voit. Sa réponse a apaisé la colère qui permet à Gédéon, le juge, de poursuivre ses ennemis qui sont encore au large. N'oublie pas, la bataille n'est pas gagnée. La guerre n'est pas gagnée. Il y a eu des victoires, les deux chefs sont morts, mais les rois sont encore au large. Les rois de Madian sont encore au large. Gédéon, il est déterminé, là, il va les poursuivre. Il va les poursuivre. Si on lit, on n'aura pas le temps de tout lire ça, là, juste les premiers versets de Juges 2, 12, Juges 12, vous allez voir.
Les hommes d'Éphraïm se groupèrent partir pour le nord et dire à Jéhovah, pourquoi es-tu passé pour aller combattre les Ammonites sans nous en marcher avec toi? Nous voulions descendre ta maison et te soulier avec elle. Jéhovah répondit, j'ai été en grand conflit, moi et mon peuple, avec les Ammonites.
On peut s'arrêter là, on va approfondir, rendu là, on va approfondir ce texte-là. Mais quand même, on voit l'attitude de ces hommes d'Éphraïm. Ce n'est pas des gars de paix, là. Puis ils vont chercher querelle pour rien. Et puis, dans le cas de Jephthé, là, il y a eu une guerre entre eux. Puis pourquoi? Parce qu'il ne les a pas invités. En fait, il les a invités, ils n'ont pas répondu. C'est ça. Et quelqu'un a dit, il y a un lien très serré entre ces gars-là. Hein?
J'ai failli payer pour...
Aga, il dit, moi sinon je te tue. Mais je pense que c'est plus que ça. Ils ont été invités.
Mm-hmm.
Et maintenant,
ils
se plaignent que tu as gagné 100.
Mais ça, c'est dans le ADN, là. C'est la deuxième fois qu'on les voit faire ça. Ils font ça avec Madian, et là, maintenant, avec Gédéon, là, c'est avec Jephthé plus tard qu'ils le font. Alors, Gédéon est en train, maintenant, il a calmé les troupes, les gars d'Éphraïm, OK, l'Éphraïm. Mais il s'en vient, il s'en va, décidément, poursuivre les rois de Madian. Malgré la fatigue, il continue. Et là, sa poursuite pour terminer les rois de Madian. Malheureusement, il s'adresse à Sukkot, au Sukkot. Il a demandé du pain pour lui et ses 300 hommes. Non, ils ont refusé. Imaginez ça. Ils viennent de se battre contre l'ennemi commun. Parce que le texte nous dit dans le début du chapitre 6, là, Madian attaquait toutes les récoltes des Israélites. Ils s'amusaient à le faire. Les troupeaux, ils s'en emparaient. Mais alors, maintenant que ces hommes-là ont rasé à peu près, là, l'armée, on vous demande de leur donner du pain. Parlons alors qu'on va aller terminer les rois, tu dis non. Tu dis non. Il se tourne de bord, il leur fait une promesse avant de quitter Gédéon. Mais la question, quand je lisais ça, je pose la question. Question pour discussion. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé? Dieu a été fidèle avec son peuple. Il lui a donné cette victoire-là. Et là, on a 300 hommes que Dieu a choisis. Et là, ces gars-là sont fatigués, ils ont faim. Dieu n'a pas envoyé des cailles. C'est ça. C'est ce que je vois. Dans le désert, Dieu va s'en occuper. Voilà, vos frères, là, l'amour des uns les autres, là, c'est comme ça je le vois quand même. Là. Oui. C'est ça. Exact. Ton frère est mal pris, ben, il faut lui donner à manger. Oui. C'est la méchanceté. Ces gars sont en train de combattre pour vous, là. Parce que les Madians, c'est l'ennemi commun, les Madianites. Du pain. Non. Pardon? Son salaire, son salaire. Puis, il dit, bon, pas grave, il a fait une promesse. Oui, mon frère, vas-y.
Alors, je remarque que Sukkot, c'est la tribu de Gad. Puis Gad, je pense qu'il n'a absolument rien s'impliquer aucunement avec tous les autres conflits extérieurs de la tribu.
Arrangez-vous. C'est bizarre dans une nation que Dieu veut réunir en son peuple.
C'était la suite de l'Israël. Aucun conflit. Ensuite, tu devrais ne rien savoir.
Voilà, l'homme n'a pas changé. Hein? Non. Pourquoi les chefs de Sukkot n'ont pas nourri les 300 hommes? Le texte le dit. Parce qu'ils avaient peur, tout simplement. Hein? Les Madianites étaient puissants. Ils disent, mais là, tu n'as pas une garantie là, d'attraper ces rois-là. Tu n'as pas une garantie, tu vas poursuivre ces rois-là. Ils sont puissants. Ils ne sont pas seuls. Mais là, tu nous demandes de supporter ta mission. Là. Voilà. Ils avaient peur, la puissance. Ils avaient peur que les représailles de la part des Madians.
Est-ce qu'il pense que, comme Gédéon s'est
fié
à Dieu, avec la foi en Dieu, que Dieu allait donner victoire?
Mais tu le vois dans la réponse de Gédéon, il dit, quand Dieu va me livrer, c'est l'affirmation là. Il a dit aux deux, à Penuel et à Sukkot. Il est sûr que Dieu va lui donner la victoire, de toute façon Dieu l'a déjà fait. Il va avec sa force et Dieu va finir. Mais ces peuples-là, ils n'ont pas eu cette confiance-là, cette même foi-là. Oui, vas-y.
C'est une crainte en réalité quand on pense que c'est partout pareil. Quand tu sais que c'est la mafia qui règne dans ta ville, tu ne veux pas qu'elle.
Ben, je ne leur adresse pas de reproche, là. C'est pas ça que.
C'est tellement évident des fois que tu parles. Puis en même temps, c'est ça, ils n'ont pas confiance en
toi. Oui. C'est ça le grand problème. Ça, c'est le peuple Israël, là. C'est le peuple Israël, le peuple de Dieu, que Dieu a toujours. Tenu que Dieu a soutenu et a donné la victoire, ils connaissent leur histoire. Ils devraient connaître. Puis, je crois qu'on ne parle pas beaucoup de Lévi, mais n'oubliez pas que Lévi, là, ils ont cette fonction de sacrificateur dans tout le royaume. Là. Ils vont enseigner, ils vont faire l'enseignement par rapport aux lois, etc. Ce n'est pas des choses qu'ils sont supposés ignorer, là, les miracles, les merveilles de l'Éternel qui les a conduits depuis le désert, puis... Non, ça les touche pas.
Ils marchent par la vue aussi.
C'est ça.
Ils voient qu'il y a 300 gars,
C'est ça. On comprend, et puis... L'humain, on est comme ça. On continue. Hein, Gédéon se tourne de bord, puis on va voir Péduel le prochain. Il fait les mêmes requêtes, les mêmes réponses. Ah, il leur fait une petite menace, une promesse, disons. Là, je pose une question. En lisant toute l'histoire, c'est une question que je me suis posée, j'essaie de trouver la réponse moi-même. Quand on parle d'Israël, les Israélites, c'est l'ensemble des 12 tribus, n'est-ce pas? Le texte au début du chapitre 6 nous dit que les Madianites, là, ils oppressaient Israël. Israël, finalement, c'est Israël qui en souffrait. Okay? Maintenant, on voit ces Israélites qui ne veulent pas aider leurs frères. Mais c'est des Israélites pareils. Ils sont oppressés par les mendiants. Okay? La question, je me suis dit, est-ce que c'est tout Israël qui était en guerre? C'est ça que je me posais comme question.
Non.
On est conscient. Oui. Bien que le texte nous dit, les mendiants oppressaient Israël, mais dans ce cas-ci, Gédéon, il est juge. Vous savez que leur responsabilité, c'est locale. Ce n'est pas un gouvernement fédéral, disons là. Okay? Ce qu'il va faire, avec la force que Dieu lui donne, l'appel que Dieu lui a sur sa vie, il va attaquer. Il va premièrement prendre quoi? Sa tribu, Manassé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les autres tribus que mon frère a nommées là. OK? Il va envoyer des messagers à Manassé, sa tribu à lui, où il appartient. Et puis, il va faire le tour. Il va aussi convoquer, dans le chapitre 6, verset 35, c'est ce qu'on lit, il envoya des messages à Aser, à Zabulon, à Nephtali. Qui montèrent. Ces quatre-là sont ensemble pour aller faire la guerre. Et c'est une partie d'Israël. N'est-ce pas? On est d'accord? C'est une partie d'Israël. Fait que on voit Israël, quand on parle de... Israël, ce n'est pas forcément toute l'armée, toutes les tribus d'Israël, quand on dit on est en tête là, mais les juges, on sait que c'est pour une partie. Les juges à Israël, mais il y a une juridiction particulière. Okay? J'ai utilisé les AI, l'intelligence artificielle, pour nous générer ça. C'est pas pire. Ça nous permet de visualiser un peu là, les tribus qui se sont rassemblées avec Gédéon pour contre Madian. Ils sont quand même une proximité là, ok? Une proximité de ceux qui sont au nord ici. On voit ceux-là, Manassé. Et ça, c'est la ville de Gédéon lui-même, hein, Manassé, Ophra, on s'en souvient là. Et puis Ephraïm est juste en bas. Fait que lui, il a décidé de faire appel à ces quatre-là. Pour attaquer ici, pour attaquer les Madians qui sont là. OK, ça nous donne une idée des quatre qui se sont engagés dans la poursuite de sont, pardon?
Est-ce qu'ils étaient dans une certaine paix, dans une zone de confort où ils savaient que s'ils étaient capables de vivre avec les ennemis sans se faire.
Oh, mais n'oubliez pas, je pense que c'est on and off. Parce que le texte nous a dit qu'ils attaquaient les récoltes, mais les récoltes, je ne pense pas que c'est au cours de l'année. Je pense qu'ils ont choisi, vraiment là pour aller chercher ce qu'il est. Ben, eux, peut-être qu'ils ne voulaient pas travailler, je ne sais pas. Et puis, eux, ils vont travailler pour nous, on va chercher les récoltes, les récoltes, on va vivre aux dépens d'eux. Là. Imaginez comment c'est mauvais, ça. C'est tes frères. C'est la même tribu. En tout cas.
Oui, mais il craignait que si jamais la victoire n'était pas du côté de Gédéon, que ça serait pire parce que les Madianites, s'ils leur donnaient à manger, les Madianites viendraient se vendraient.
Oui.
En même temps, c'est pas tout Israël, c'est pas tout le territoire qui était au Comme. Le Saint-Denis à la paroisse n'est jamais décrit d'une façon précise. Mm-hmm. Ça, des fois, lorsqu'on étudie bien dans le juge, il y a des chevauchements en juge dans les temps. Comme je suis certain que les côtés de la récolte étaient comme plus vers le nord, qui faisait que c'était plus menacé et qui faisait plus la pression des médianites par rapport à ça.
Possiblement.
Tandis que Judas n'entend pas parler, et Judas, c'est une des grosses tribus, puis il faut que.
Dans ce cas-ci, non. Dans ce cas-ci,
mais
non.
Comme la nation d'Israël est un tout en même temps, si tu méprises ceux du nord, ceux du sud sont quand même impliqués parce que son frère. Donc, lorsque, disons, que Israël soit attaqué, mais les Juifs qui sont ici, présentement.
Ben, ouais, ils se sont visés. Ouais.
Visés,
mais
ils sont
pas en tout cas.
Donc, c'est pour ça que je pense que je vois souvent que lorsqu'on voit le côté géographie, c'est pas nécessairement tout Israël.
C'est pas tout Israël, c'est vraiment.
C'est vrai.
Pas tout Israël, c'est, ben c'est une partie de, du territoire. C'est du territoire. Le texte dit tout Israël. Alors, les deux rois sont. Qui étaient au large, se sont enfuis à une place qui s'appelle Kakor, avec 15 000 hommes. On croit que c'est pour planifier leur attaque, parce qu'ils étaient là, dans la bataille initiale, et les uns se sont mis à attaquer les autres, se sont enfuis. Moi, c'est comme ça que je le comprends, que peut-être c'est le roi avec ces hommes-là se sont repliés dans ce coin-là pour préparer leur prochaine attaque. C'est ce que je pense.
C'est beaucoup, hein? 120 000 à 15 000, c'est beaucoup, hein?
Ouais. Ouais. Il lui restait 15 000.
120
000? Oui, oui. C'est 300 hommes qui ont fait ce job-là. En fait, ce n'est pas eux qui ont fait la job. Ils se sont entretués.
C'est l'éternel.
C'est l'éternel. C'est l'éternel.
Il reste 10%.
Ouais. C'est merveilleux, c'est étonnant. Mais c'est notre Dieu. 300 hommes de Gédéon n'ont pas été impliqués dans la mort d'aucun de ces 120 hommes. Aucun. Gédéon les poursuit avec ses hommes. Et il battit la main qui se croyait en sécurité et les rois sont capturés. Le texte nous dit qu'ils se croyaient en sécurité. Pourquoi d'après vous? Je ne sais pas, je pose la question comme ça. Peut-être c'est ça, ils ont 15 000 hommes face à 300 hommes, peut-être, oui. Et si on se réfère peut-être à petite diaporama, à la petite carte qu'on avait, on voit qu'ils sont quand même retirés, ils ne sont pas dans le territoire des Israélites, ils sont vraiment quand même dans leur campement à eux. Et dans l'un des textes, je pense que quand Gédéon les attaque, il dit qu'ils passent par un chemin comme Herpers, mais un chemin comme, c'est pas un droit chemin qu'ils passent, comme s'ils passent par en arrière pour les attaquer. En tout cas, c'est des détails qui sont dans le texte qu'on ne saisit pas tous très bien, que je ne saisis pas très bien.
315
les deux rois s'enfuient. Les deux rois s'enfuient. Mais ils sont quand même là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils peut-être sont en train de préparer une attaque, mais quand même, ils ont été capturés. Gédéon, avec ses trois hommes, pas beaucoup de détails, le texte ne nous donne pas beaucoup de détails sur cette victoire-là, mais la conclusion, c'est que Gédéon a été vainqueur et a su.
C'est pas important.
Non.
C'est juste en passant.
Oui. La victoire, Dieu finale, Dieu donne la victoire finale. Il l'a fait avec les premières batailles, là, disons. Mais ça, c'est garanti. Et on le voit, on l'a vu dans la réponse de Gédéon. Gédéon était certain que Dieu allait lui donner la victoire. Maintenant, après la victoire complète, on voit Gédéon qui retourne à Sukkot pour punir les anciens de la ville. Il leur avait promis cela. Il dit, moi, je vais revenir. Là. Il dit, quand l'Éternel va m'avoir livré les Madians, les chefs, les rois, je vais revenir, je vais vous punir. Il parlait de le chadron et puis peut-être des plantes qui ont des épines dans les déserts. Là, je ne sais pas, c'est une punition quelconque, c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était ce qu'il voulait. Et il l'a promis, il l'a fait. À Penuel, il a été plus sévère quand même avec. C'est cruel, hein? C'est cruel. C'était ma réaction aussi quand j'ai lu ça. Oui, hein? Imaginez quelqu'un qui n'est pas chrétien qui lit ça.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai connu des gens qui ont refusé l'évangile à cause des situations qu'elles lisent dans l'Ancien Testament. De voir la méchanceté, la cruauté.
Oui.
Les païens. Le problème, c'est qu'on met sur le dos de Dieu ce ce que l'être humain est en train de faire.
Oui.
C'est pour ça que les gens rejettent l'évangile, parce que comme il veut se justifier,
c'est ça. C'est ça.
Ça fait que...
Pourquoi Dieu intervient? Pourquoi Dieu a permis ces choses-là? C'est ça, exactement. On a vu dans d'autres études comment est-ce que Dieu a demandé que ces peuples-là soient rasés. C'est en vengeance à ce qu'ils avaient fait à Israël eux-mêmes. On s'en souvient, là, quand Israël était faible, il n'y avait pas d'armée, ils passaient dans le désert et puis ils se sont fait attaquer par ces armées-là. Et Dieu dit, vous allez vous en débarrasser, vous allez vous les raser. Et Dieu, les Israélites n'attaquent pas, ils se défendent. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, j'ai dit ça. Okay. C'est quand même, c'est la question que je pose. C'est cruel, quand on lit ça. Tous les gens, et puis la tour.
C'est cruel, mais
il obéit à Dieu. C'est aussi une conséquence
de la relation. Oui, et puis c'est ce que Dieu demande, a demandé. C'est ce que Dieu a demandé. C'est ce que Dieu a demandé. En fait, aucune de ces nations ne devrait exister. Dieu vous a donné la terre promise, tout le territoire, c'est à vous. Tous ces peuples-là devraient être chassés. Chassés.
Chassés, ça ne veut pas dire tuer. Parce qu'ils sont rebelles, et non parce qu'ils ne sont pas oubliés.
Mais quand ils sont partis, là, ils veulent échapper leur vie parce qu'ils étaient restés, ils seraient morts. L'intention, c'est vraiment des Israélites, c'est de tuer. Oui. Mais n'oublie pas que les tuer, je comprends, c'est cruel, mais c'est ce qui les attend, la mort éternelle. Et Dieu veut éviter à son peuple ce châtiment-là parce qu'eux, ils vont influencer le peuple de Dieu. C'est l'évangile, ça!
Parce que t'es condamné,
ouais.
Mais là, il y a une espérance.
Voilà.
Sauf que les gens, ils arrivent, ah, condamné, je voudrais savoir. Non, j'ai une espérance.
Espérance? C'est ça. Non, ben, c'est ça. Le salut est là. Le salut est là. Le salut.
C'est obligé d'être condamné.
Oui, oui. Oui, oui, Jojo. Tu avais
l'histoire avec
Ruth
aussi, qui était moabite.
Oui.
Mais elle a tellement.
Comme on dit,
oui, oui.
Elle a accepté de suivre sa belle-mère et elle a accepté de...
Son Dieu. C'est encore l'évangile.
Il ne veut pas les éliminer à tout prix, comme dit
Patrick.
Aussi. L'espérance, c'est de se convertir,
oui.
De changer de voie.
Et ça, c'est le même message de l'évangile dans tout l'Ancien Testament, pour nous pointer vers Jésus-Christ, le sauveur, le libérateur. Ah oui. Regardez Gédéon. Est-ce que c'est le meilleur gars pour faire ça? Dieu l'a travaillé. Dieu l'a travaillé pour qu'il soit arrivé là. C'est la grâce de Dieu. Voilà. C'est l'évangile. Dieu nous présente. Dieu se révèle. Dieu se révèle à travers tout l'Ancien Testament, dans tous les récits qu'on lit. Là, Dieu est en train de se révéler. Révèle sa justice. C'est son châtiment pour le péché et la grâce qui nous attend si on veut abandonner nos mauvaises voies. C'est ça le message de l'Évangile. L'ordre de l'Éternel, comme lui avait dit, délivre Israël de la main des Juifs. Délivre. C'est ce qu'il avait dit, l'ordre de l'Éternel. Encore AI, qui a généré cette petite intelligence artificielle, qui a généré ce petit dessin, cette petite carte. Je ne pense pas que ce soit parfait, mais je pense... Je l'ai questionné par rapport à cela. Puis on a vu Sikot, il nous a situés au bas du Jourdain. Le Jourdain qui verse dans la mer de Galilée, qui devient, je pense, la mer Fourmonte, quelque part. Excuse-moi ma géographie, mon histoire. Là. Et Sikot et Penuel qui va passer là. Penuel va être rasé. Et puis c'est à partir de cela, de cette place-là, qu'il est allé aller attaquer à Kakor, là, ici. Là. Il s'était réfugié. Et c'est une bonne distance, d'après ce que je comprends. Là. C'est une bonne distance. Malgré qu'ils sont fatigués. Malgré la fatigue, ils sont allés dans leur camp. Et c'est Dieu qui pour. En fait, le texte nous dit nulle part qu'ils ont été nourris. Nulle part nous dit qu'ils ont été nourris. Le texte nous dit qu'ils avaient faim, qu'ils étaient fatigués. Ils ont refusé toute aide. On ne leur a pas donné d'aide, mais ils avancent quand même. Ils avancent quand même. Ils ont gagné la victoire. Ils ont gagné la bataille, la guerre. On comprend la main de Dieu. On voit la main de Dieu en arrière de tout cela qui leur donne la victoire. Malgré, il fallait juste obéir. Lui faire confiance et avancer avec foi. Maintenant, si on est rendu dans le verset 22, on a quand même un peu de temps. Voilà, les versets 21 et 22. Qu'est-ce que ces versets-là nous révèlent sur le caractère, notre caractère de Gédéon, 21 et 22. Je pense qu'on l'avait dit tantôt, mais c'est un rappel. Peut-être 22-23. Hein? 22-23, c'est plus 22-23. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel dominera sur vous. Il est convaincu, ce gars-là. Il est convaincu. On voit sa foi, hein? Un homme qui fait confiance au Seigneur, qui voit la main de Dieu dans tous les succès qu'il pourrait avoir. Il voit que c'est Dieu qui combat pour lui, qui lui donne la victoire. Et encore une fois, il ne veut pas prendre la gloire, il ne veut pas que ses enfants, ni personne de sa génération, là, prennent cette gloire-là. Il ne veut pas que ce soit un empire Gédéon, là, comme certains le disent, là, on lui offre la royauté, et puis non, il ne veut pas. S'il y a quelqu'un qui va régner sur vous, c'est l'Éternel. Wow. Oui. Oui. Oh, oui, hein? C'est fun, ça, le peuple me veut, là. Wow. En tout, il avait toutes les. Je veux dire, là, il a fait ses preuves. Le peuple. Oui, quelqu'un aurait dit ça, hein? Et ce serait bien vu. Ce serait bien vu. Oh, Dieu m'a donné la victoire. Maintenant, il veut m'élever, là, etc. Non, lui, il ne voyait pas ça comme ça. Non, s'il y a quelqu'un qui va juger, qui va régner sur vous, il comprend que c'est l'Éternel qui règne. Et puis, il dit, mais pas mes enfants, pas moi. On voit un homme vraiment qui a l'humilité, qui a sagesse, mais tout ça, on revient, tout ça revient à Dieu. Au début, c'était un grand faible, et puis je me demandais s'il posait les questions. Tous ces miracles-là, comment il dit ça? Que vous me parlez de nos pères, Dieu était intervenu pour nos pères, et c'est où est Dieu maintenant? Alors qu'il s'est posé la question. Il s'est posé la question, mais à travers tout son parcours, Dieu l'a fortifié, et on voit un gars qui reconnaît la main de Dieu. La question que je me pose pour nous aujourd'hui, est-ce que les miracles que Dieu accomplit dans nos vies, est-ce que ça nous emmène à le voir comme ça? Avoir cette confiance en lui. Et c'est ce qu'il veut accomplir, vous savez. C'est ce qu'il veut accomplir dans tous les défis qu'on a devant nous. Heureusement, un défi de bâtiment. La confiance, il veut ça. Il ne manquera pas à ses promesses. Il ne manque jamais à ses promesses. Il est Dieu, il ne change pas. Il est l'Éternel, c'est ça qu'il est. L'Éternel. Il est persuadé que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. C'est l'Éternel qui a combattu. C'est lui qui doit régner sur eux, sur lui. Il refuse la fonction du roi pour lui et ses fils. Maintenant, que pensez-vous maintenant? de la demande du peuple.
C'est un peu normal. C'est lui qui nous a conduits à la victoire.
C'est notre chef. Mm-hmm. On veut t'avoir pour chef. David, vous vous rappelez? Ah, ok.
C'est l'ambition sur ce client et non la personne qui a vraiment dénoué. Parce que juste l'histoire a tenté de 300 hommes qui combattent sans rien. Et ces 300 hommes qui continuent à poursuivre l'autre bord du Jourdain pour combattre.
Est-ce qu'ils ont compris ça? Je me demande, est-ce qu'ils ont compris ça? 300 hommes?
Juste ça. C'est le thème que le nom miracle n'est pas besoin d'être là.
Oui. Non? Ben oui, c'est ça.
C'est invraisemblable encore
aujourd'hui. Non. Ouais. Toi, reste-nous. Reste-nous.
Ça ne va pas sur l'application.
Il regarde juste ce qu'il voit seulement.
C'est gentil, ça.
Il ne regarde pas comment ça s'est passé. Puis, ouais. Puis en réalité, tu vois, Israël, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'armée officielle parce qu'il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas. C'est comme bon, mais regarde, on va appeler des gens pour embarquer avec nous autres. Il n'y a pas d'armée officielle. Mais si tu vois les. Et nous, autour, pour les tribus des nations autour, ils ont tous des rois avec une armée officielle. On va faire pareil, comme ça, on pourra se défendre.
Ben, qu'est-ce qui va arriver dans 1 Samuel? Après juge. Donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Ce qu'il est chez nous, c'est ce qu'ils veulent. Ça le prépare. Déjà, la mentalité est là, tu le vois, là. Ils veulent. Oui, le fils Abimelech, Amalek, c'est ça? Abimelech, c'est ça?
On veut un roi, on veut gagner, puis on veut, on veut se sentir en sécurité par la vue et non par la foi.
C'est ça.
Ça nous fait un homme fort.
Physiquement, qu'on voit. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse le voir, qu'il veut être notre roi dans notre vie quotidienne à la maison, là, c'est lui le boss. C'est une période de théocratie.
Donc, je dirais que oui, ils n'ont pas de roi encore. Le juge est un intermédiaire avec Dieu. Mais, c'est théocratie parce que.
La théocratie est là. C'est pas ouvert, le peuple. Gédéon le voit, mais pas le peuple. Pas le peuple qui voit ça. Ils vont demander quelqu'un physiquement, puis qui va leur donner des tâches, des rôles. Il va leur donner des rôles. À l'époque de Moïse, de Josué et de Juge, il n'existait pas de gouvernement central, n'est-ce pas? Ok, dirigé par des humains. Alors, comprends? Alors, Dieu dirigeait le peuple, comme mon frère l'a dit, par l'intermédiaire d'un homme, des hommes, qu'il a lui-même choisi. Parce que la théocratie était là. Et comme nous l'avons dit, mais le peuple n'est pas imbu de cela. Mais l'Éternel dit, c'est l'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Les victoires, c'est les victoires de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est en action, là. Après la victoire sur les Madianites, sa victoire sur les Madianites, Gédéon prit l'or des bijoux et des ornements apportés par les habitants conquis, les fondit et fait fabriquer un éphod.
Pourquoi l'intention était bonne? On sait, il veut savoir qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça. Il voulait faire. Ça veut dire on veut croire que tout ça était bon.
On veut quoi?
Pourquoi ça serait l'intention était bonne à rallonger?
Non, je ne dis pas qu'elle était bonne.
On veut quoi?
Parce qu'il a dit non. Pourquoi on a réagi? Comme ça, c'est une erreur cruciale dans l'histoire.
Mais c'est l'homme. C'est l'homme.
C'est refait comme dans les autres comme deux, les mots d'or.
Ah oh, ouais, c'est Aaron.
C'est Aaron.
C'est Aaron.
Parce qu'il savait bien qu'avec ça,
on a un peuple qui a vu ces miracles-là, qui a vu cette victoire-là, 300 hommes, battre une grande armée.
Parce que des fois, c'est un petit monument. Hein. C'est une idole, c'est un petit monument.
Ben, au début, non. les fautes classiques, c'était pas ça.
Non.
Dans l'instant. C'était vêtement. C'était un vêtement. Il a refusé la royauté. Il a refusé la royauté. Il a refusé. Pour lui et pour ses enfants. Fait que. On va lui donner la bonne intention. Parce que c'est je pense.
On peut. On va voir le piège au chapitre 9.
OK. Qu'est-ce qu'il enseigne? C'est la gare. Ok. C'était pas ça. Au début, c'était ça, les sacrificateurs qui portaient ça. Ils portaient ça. Ce que je dois comprendre, c'est parce qu'on parle des vêtements royaux, etc. Je pense qu'il avait pris peut-être des vêtements et puis a accroché ces objets de valeur là-dessus pour faire des fautes. Peut-être pour un rappel, je ne sais pas. Il y a tellement de commentaires par rapport à cela qui veut transporter la place de lieu d'adoration qui était à Bethel, l'amener à Opra. On n'entrera pas dans ces discussions-là. C'est des commentaires. C'est des humains. C'est n'importe quoi. OK? Fait que, on ne sait pas. Mais l'essentiel, il a fait ça. Alors, c'est destiné à avoir une fonction religieuse symbolique, peut-être. C'est ce que je crois comprendre là-dedans, mais on a compris. Malheureusement, les fraudes qui auraient dû, à notre avis, à mon avis, honorer Dieu, ben, ils devaient un objet d'idolâtrie pour Israël. Ils ont détourné leur adoration vers un objet créé par l'homme au lieu d'adorer le Créateur, Dieu lui-même. Le pays connaît du repos jusqu'à la mort de Gédéon. Et le texte nous dit, là, j'aime ce texte-là, il dit, Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Quoi? Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. C'est une belle conclusion. Verset 30. On ne va pas assez éduquer ça. Verset 30. Est-ce que le mariage multiple est approuvé par Dieu?
Non. Ben, je disais que non, tout de suite, mais je ne vois pas de. OK, alors, on va être comme. Ça, sa famille, ça, tout ça. Je suis d'accord avec tout ça. Mais quand ils prennent plusieurs femmes dans l'Ancien Testament, on ne voit pas une directive directe de Dieu en disant, bon, c'est pas ma volonté.
Est-ce qu'il n'y avait pas une mise en garde pour Salomon par rapport à ça dans Deutéronome?
Oui, c'est sûr.
Deutéronome, il y avait une mise en garde contre les femmes là, à Salomon. En tout cas, dans lui, il a pas le test, il a floppé le test. Ok. David, Salomon, Abraham, Jacob, Gédéon, etc. Ils ont pratiqué la polygamie et ne sont pas des exemples de pères de famille pour nous les chrétiens. D'accord.
Okay. Parce qu'on voit tout ce qui se passe après ça.
Oui, je comprends, mais les chrétiens, je pense que nous sommes les seuls à vouloir peut-être ça, je ne sais pas, pas juste une famille, mais en fonction de Dieu. Là, en fonction de Dieu. Ok. On va finir avec ça. Genèse 24, qu'est-ce que ça dit? Genèse 24, 2, 24. On est d'accord? On est d'accord. Dans l'Ancien et dans le Nouveau. Éphésiens, je vais mettre la même chose. Ok? Bon, non, on va pas aller là. On va juste s'en tenir à ça. Il y a plein d'autres textes. Timothée, hein? En tout cas, il y en a plein. Ok? C'est un rappel, tout simplement. Et puis l'histoire de ces hommes-là qui ont pratiqué la polygamie nous fait réfléchir. Les tensions, les rivalités, les jalousies semblent être plus vives dans les mariages polygames. On va dire ça, ok. Le mariage d'un homme et d'une femme correspond au modèle de mariage établi par Dieu. Okay. Après la mort de Gédéon, le cycle commence. Et puis on finit avec une petite conclusion. L'histoire de Gédéon comme juge montre que c'est Dieu qui choisit et soutient ceux qui l'appellent pour accomplir ses plans. Il les brise, les façonne progressivement. Pour mieux se servir d'eux, le peuple de Dieu doit respecter, doit rester fidèle et l'adorer, lui, Dieu, non pas à vénérer les leaders et quelque chose symbolique. La croix, par exemple, pour les catholiques. La croix, c'est sacré pour eux. Mais ils ne veulent rien savoir de Christ, qui est l'agneau qui est immolé sur la croix. Les bonnes intentions peuvent dévier si Dieu n'est pas au centre de notre adoration. Amen.
Amen.
Est-ce que je peux juste rappeler le verset 34 au
chapitre
que je pense que pour nous c'est important, d'Isaïe ne se souvient pas de l'éternel leur Dieu qu'ils avaient délivré de la main de tous les ennemis qu'ils ont
fait. Isaïe? Qui?
Qui ne les avait pas, qu'ils avaient délivré.
Mais qui est-ce qui n'a pas fait ça? Israël. Ah, ok, Israël. Ouais. Okay.
Donc, c'est la même chose pour nous, comme une fois que Dieu nous a délivré des menaces, des problèmes.
Ah, c'est... Vous vous le rappelez?
D'anxiété, d'angoisse, de peur. Ça nous appelle à confiance à l'éternel, d'aller à l'éternel pour crier à lui, non à personne d'autre.
Amen.
Vous avez oublié cela.
Amen. Veux-tu terminer par la prière, mon frère?